Bonsoir, merci d'être venus nombreux à cette seconde séance d'un cycle que les revues parlées organisent avec la Bibliothèque publique d'information, notamment avec son service audiovisuel que dirige Catherine Blangonnet, et dont l'idée était de faire voir, découvrir, revoir, selon les cas, un certain nombre de films sur des écrivains, en les faisant en quelque sorte accompagner, donc précéder, suivre selon les cas, d'une conférence, soit ici ce sera plutôt un entretien avec un écrivain ou un philosophe qui était un lecteur de celui dont on verra le film ensuite. La première séance, pour ceux d'entre vous qui étaient là, vous vous en souvenez, c'était ce fameux film de Benoît Jacquot où Jean-Benoît Puech interrogeait Louis-René Desforêts. C'était donc relire Louis-René Desforêts avec Jean-Benoît Puech. Et quand j'ai proposé à Chantal Thomas de choisir dans une liste que nous avions établie avec Catherine Blangonnet, elle a proposé Thomas Bernhard. J'aurais dû m'en douter puisque je connaissais très bien le livre qu'elle a écrit sur Thomas Bernhard dans la collection Les Contemporains du Seuil. Mais bizarrement, je n'y avais pas pensé de moi-même. Donc, on va donc voir un film sur Thomas Bernhard, mais on va d'abord parler de cette lecture de Thomas Bernhard par Chantal Thomas. Quand on s'envoyait des mails à ce sujet-là, on appelait, enfin, le titre des mails, c'était Thomas et Thomas. Oui. Alors, Chantal Thomas, donc essayiste, romancière, essentiellement 18e-iste. Le premier livre, 1978, c'est Sade, L'œil de la lettre, et puis un certain nombre de livres suivent toujours 18e, Casanova, les pamphlets sur Marie-Antoinette, dont j'ai un peu oublié le titre, je crois que c'était La Reine Scélérate, voilà. Ce qui aura une issue, si l'on peut dire, dans ce livre, ce roman Les Adieux à la Reine, qui a eu le prix Femina en 2002. Et s'y entrelacent des essais que l'on pourrait qualifier de personnels, où je crois que Chantal, tu en as parlé comme d'autobiographie indirecte, souffrir, comment supporter sa liberté. Alors, en relisant cette bibliographie que je connais, j'étais surprise de voir que, d'abord, en ce qui me concerne, j'ai commencé à te lire avec Thomas Bernhard, donc sans rien savoir de ce qui précédait. Et au fond, il y a une sorte. Ce livre sur Thomas Bernhard représente une sorte d'exception ou d'anomalie. Et c'était ça, c'est par là peut-être qu'on peut commencer. La 18e-iste qui écrit sur Thomas Bernhard.
Mais Thomas Bernhard. En effet, j'ai commencé à lire Gel, je crois. C'est le premier texte que j'ai lu. Et ça m'a fait un effet de réveil. Et j'ai eu l'impression d'entendre vraiment une voix exactement contemporaine. Et qui m'obligeait aussi à repenser le XVIIIe siècle autrement. C'est-à-dire à refuser l'espèce de ronronnement d'un commentaire sur un siècle passé pour en faire quelque chose qui m'aidait à voir le présent. Et l'effet que Thomas Bernhard a fait sur moi, c'est exactement la manière dont lui, quand il parle d'un livre qu'il lit, l'évoque comme une sorte d'arme. Il a cette phrase que je trouve extraordinaire quand il parle, par exemple, des démons ou des possédés de Dostoïevski, où il dit ce livre m'a donné l'énergie et m'a montré la voie. Et je trouve que quand lire Thomas Bernhard, d'une certaine façon, c'est être prêt aussi à tourner le dos à tout ce qui est endormissement ou confort et à se demander ce qui vraiment compte pour vous. Bon, c'est comme une sorte de choc. C'est un vrai choc, mais un choc du côté de l'intelligence.
Et quand tu dis que ça t'a obligé à voir le 18e autrement, qu'est-ce que ça a changé? Ça t'a rendu ces figures sur lesquelles tu avais travaillé, Sade ou Casanova, plus proche de toi?
Mais faut dire aussi que j'ai commencé d'aimer la littérature au sens où on s'engage, où on a l'impression que ça bouleverse votre vision du monde avec Sade. Et comme Sade, c'est vraiment un libertinage extrême et qui va dans le sens d'un enfermement et que j'avais envie de choses plus vivables. J'ai aussi, après, lu Casanova, qui en effet est une invite à aller dans le monde et à goûter un plaisir plus facilement partageable. Donc, le 18e siècle, je m'en fiche d'une certaine façon du 18e siècle. Mais il y a des auteurs dans le 18e siècle qui vraiment représentent pour moi des univers très forts. Et en ce sens, Thomas Bernhard, l'effet de réveil qu'il m'a fait, c'est par rapport à un commentaire qui se satisferait trop de lui-même, mais pas quitter un siècle, etc. Je me suis toujours sentie complètement là.
Alors, ce qui est étonnant, ce que je n'avais pas vu à la première lecture de ce livre, ce que je découvrais en le relisant, c'était justement les références au XVIIIe siècle, qui sont très curieuses parce que c'est d'une certaine façon, ça s'impose. Le rapprochement est évident, le rapprochement que tu fais entre le neveu de Wittgenstein et le neveu de Rameau.
Ah oui, c'est trop beau.
C'est trop beau.
D'ailleurs, c'est génial, je l'ai relu juste avant de venir, le neveu de Wittgenstein. C'est extraordinaire à quel point les grands thèmes du neveu de Rameau y sont, absolument tous. Et en particulier, cette idée que de ne pas rentabiliser son génie. Et la manière dont il explique la folie du neveu de Wittgenstein, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'est trop beau. Il dit, il est celui qui jette son esprit par les fenêtres, et plus il le jette, plus il a d'esprit. Et au bout d'un moment, il n'arrive pas à jeter assez vite. Et en fait, c'est ça qui fait la folie. Et il dit que c'est exactement comme ça que Nietzsche est devenu fou aussi. Par une sorte de volupté, de dépenses excessives, et qu'on n'arrive pas à suivre, on a trop d'idées en tête et on n'arrive pas à les suivre et du coup on devient fou. Je trouve ça vraiment merveilleux. Et ça, c'est exactement le neveu de Rameau.
C'est-à-dire qu'ils ont, oui, ils ont choisi, enfin aussi bien Diderot que Thomas Bernhard, choisissent non pas le héros positif, ils ont Rameau, Wittgenstein, mais l'échec.
Oui, oui, mais
le personnage excessif,
voilà,
et le raté.
Voilà, moi je dois dire que c'est ça qui m'a plu tout de suite dans Thomas Bernhard, c'est le côté flamboyant de l'échec. Il y a un autre livre fétiche pour moi, c'est le journal de Kafka. Et il y a évidemment une continuité aussi très forte entre Thomas Bernhard et Kafka. Et c'est surtout visible dans les premiers textes de Thomas Bernhard. Quelque chose qui est autour de l'excitation qu'il y a à ne pas être du côté du succès, à ne pas être du côté du positif, à sombrer. On peut toujours sombrer davantage, on peut toujours aller un peu plus bas et c'est encore plus survoltant.
Une autre phrase que je trouvais très, très curieuse et très peu attendue, une sorte de relation ou une sorte de pont que tu établis entre Thomas Bernhard et Sade. De même,
c'est un peu risqué, faut dire.
C'était de la voltige.
Oui, non,
mais
ça...
bon, tu y arrives. Hein.
Oui.
Alors,
c'est un peu.
De même que Sade évoque un principe de délicatesse à la source des plus cruelles orgies, De même, peut-on postuler un principe de raffinement à l'œuvre dans les infinies variations de Bernard sur l'horreur de vivre ?
Ah oui, il y a quelque chose, dans les deux cas, si on peut continuer une comparaison qui franchement ne tient pas du tout, dans les deux cas, il y a une sorte d'énergie invraisemblable à maintenir quelque chose qui ne se défend pas, qui est vraiment... Ils sont tous les deux dans l'indéfendable, vraiment. Et surtout, le vrai point, alors là, c'est un vrai point en commun, dans une force de répétition que rien n'arrête. Si on pense à la philosophie de Sade, d'un livre à l'autre, il varie les mêmes thèmes. Ou même, on peut dire que Juliette et Justine disent exactement la même chose, mais une le dit sur le ton de la plainte et l'autre le dit sur le ton de la... jubilation. Et dans Thomas Bernhardt, il y a la même chose, d'une sorte de mélopée et d'un sens profondément musical de la phrase et un plaisir du ressassement. Alors bon, les gens qui ne l'aiment pas trouvent que c'est répétitif, mais les gens qui l'aiment veulent toujours davantage, il me semble.
Oui, un effet de fugue, de variation, de variation infinie.
Mais ce qu'il y a derrière, c'est le côté musicien de Thomas Bernhardt, qui avait d'abord eu une vocation de chanteur, à laquelle il a renoncé pour à cause de sa maladie des poumons, exactement comme Roland Barthes.
Et qui joue du violon quand il est enfant. Enfin, il y a toute cette ce livre sur cette autobiographie. C'est l'origine, je crois. C'est dans l'origine qu'il parle de ses leçons de violon.
Il en parle avec horreur.
Oui. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi, tu parles à propos de Thomas Bernhardt, de génie du scandale, est-ce que ça n'est pas aussi quelque chose qui le rapproche de certains auteurs du XVIIIe ?
Il avait en effet un génie du scandale, mais un génie très, très orchestré. Et il y a quelque chose qui est un vrai écart entre le personnage qu'il a construit dans ses livres, qui est un personnage profondément pessimiste, négatif, en horreur du monde, et le personnage de son existence, qui est quelqu'un de beaucoup plus, je ne dis pas mondain, mais qui s'intéressait vraiment au théâtre du monde, justement, comme on dit au XVIIIe, qui vraiment fréquente les cafés, qui voyage avec son ami, son être vital, qui va beaucoup dans le sud. Donc il a construit dans ses livres une voix, il a fait entendre une voix beaucoup plus totalement misanthrope que lui l'était. Et son goût du scandale, c'est... c'est quelque chose qui l'excitait. C'était vraiment une manière de jouer aussi avec l'opinion.
Enfin, il va très loin. Je crois que ce sera évoqué dans le film qu'on va voir. Hein. C'est ce fameux discours au moment de la réception d'un prix où la salle se vide tellement les officiels se sentent insultés.
Il raconte aussi dans un de ses livres cette chose merveilleuse où il va pour recevoir un prix, il s'installe dans le public, personne ne le reconnaît, il attend, il s'en va. Il y a ça aussi, il y a les deux.
Alors, je voudrais que tu évoques également, je voudrais que tu parles de cette différence entre cette différence que tu fais entre le corps du XVIIIe, qui est ce corps léger, utopique, ce corps comme inusable, ce corps heureux, et puis ce corps malade dont Michel Foucault note l'apparition à un moment très précis qui coïncide d'ailleurs avec la Révolution française, et ce corps malade qui joue un rôle tellement fondamental chez Thomas Bernhardt, qui est même allé jusqu'à jusqu'à la transmutation de la maladie ou la volonté, il veut sa maladie.
Oui, tu as raison. Oui, en effet, si on pense le texte de Foucault, il dit vraiment cette cassure. Entre un monde dans lequel les maladies existent, bien sûr, mais on n'en fait pas son identité, et la même chose pour la folie. Le fou circule, il n'est pas assigné ni dans des catégories, ni dans un espace psychiatrique clos. Et c'est avec le 19e siècle que se rigidifie tout ça. Et Thomas Bernhard, de ce point de vue, il est l'extrême de la maladie et de la folie. Mais comme il pousse les choses jusqu'au bout, il les renverse en un principe théâtral. Il a des phrases très fortes où il dit j'ai été constitué par ma maladie des poumons, mais je l'ai poussé si loin que finalement j'en ai fait ce que je voulais. Et il identifie la maladie, étrangement, non comme une chose de victime, comme quelque chose qu'on subit, mais il le dit souvent comme une manière de se dresser contre le monde. Et il est celui qui guérit avec les médecins et contre les médecins. Et dès qu'il est guéri, il va abuser de son corps pour à nouveau tomber malade et ainsi de suite. Donc c'est une problématique très très étrange, la maladie, chez Thomas Bernhard. Pas du tout comme dans Proust, où la maladie est une sorte de manière de sentir excessivement le monde et d'être comme réceptif à un point presque intolérable à toutes les nuances, au moindre parfum, parce que c'est dans le cas une maladie des poumons. D'ailleurs, c'est intéressant de noter que les Thomas Bernhard ou Proust, Thomas Bernhard parle jamais de Proust, mais c'est évident qu'ils le connaissaient très bien. Et ils ont en commun, en effet, alors qu'ils avaient un problème respiratoire, de faire des phrases qui vont le plus long possible. Comme si par l'écriture, ils récupéraient tout ce souffle que physiologiquement, ils n'avaient pas. Et le dernier livre de Thomas Bernhard, Extinction, à mon avis, est vraiment profondément proustien. C'est vraiment la reconquête d'un monde perdu et du temps disparu. Mais par rapport à la maladie, autant pour Proust, c'est une manière fusionnelle, hypersensible, du côté de l'acceptation. Pour Thomas Bernhard, c'est une manière de lutter. Et dans les deux cas, je crois, c'est une manière de vivre le temps comme une chose, comme l'or même, comme ce qu'on ne retrouvera jamais. Et moi, ce qui m'a le plus ébranlé quand j'ai lu Thomas Bernhard, c'est ça. C'est cette idée de la survie et que chaque seconde qu'on a, c'est une seconde inespérée. Donc, le début, par exemple, du neveu de Wittgenstein, le narrateur est sur son lit et on lui a déposé sur lui son dernier livre. Et il dit « je peux le voir ». Ce qui est aussi une variation proustienne d'une certaine façon. Il a vécu assez pour voir le livre imprimé. Mais cette urgence, c'est aussi la fin des arbres à abattre quand il quitte cette réunion mondaine. Et évidemment, dans les arbres à abattre, cette mondanité, c'est les Auensberger, je crois. On pense évidemment au Verdurin aussi. Il y a infiniment de variations derrière Thomas Bernhard, mais la manière dont il s'enfuit en courant de cette horreur, c'est d'ailleurs des gens qui l'avaient beaucoup aidé, qui s'étaient beaucoup occupés de lui, etc. Quand ils ont vu le livre, ils ont voulu le faire interdire, parce qu'il était d'une ingratitude crasse. Et la manière dont il quitte cette réunion mondaine et la frivolité, c'est un sursaut de vie. Donc c'est au fond les mêmes thèmes aussi, le thème du temps perdu, le thème de la mondanité, mais disposé et écrit complètement différemment.
Il y a chez lui comme une sorte de constante des interruptions, aussi bien dans sa vie, hein, quand il raconte sa vie, sa jeunesse dans cette série autobiographique. Il y a une décision, par exemple, où il fait demi-tour dans la rue et où tout à coup sa vie s'inverse, où dans le souffle il y a ce moment où il est quasiment mourant dans une chambre où il agonise, et il y a une sorte de drap mouillé qui lui tombe dessus, qui est comme une sorte de sueur, enfin de main de la mort, et là tout à coup ça se retourne et il décide de vivre. C'est-à-dire que les... Oui. Et ça se retrouve dans ces phrases, d'ailleurs, tu en parles très bien. C'est un maître de l'interruption, non seulement de la bifurcation, mais c'est un maître de la coupure, de la césure.
Oui, et il dit il faut toujours s'arrêter au moment le plus imprévu. Et ça, c'est complètement non classique, en effet. Si on veut revenir à la question du 18e, le 18e siècle vraiment soigne ses fins, ça ne s'arrête jamais comme ça. Lui, il a vraiment l'art d'aller dans la direction directement opposée et de tourner le dos d'une seconde à l'autre. Et ça, je trouve ça, au sens fort, chavirant dans Thomas Bernhard. C'est vraiment un auteur qui galvanise.
Et qui fait rire aussi.
Et qui fait rire, oui.
Tu me disais qu'il y avait des gens qui le trouvaient très, très sinistre. Je pense que dans... Je crois que c'est dans Maîtres anciens qu'il y a ces pages absolument prodigieuses sur Heidegger, ce faible penseur préalpin. Et une fois qu'on a lu ça, on ne peut plus jamais...
C'est vrai.
Les scènes de Madame Heidegger tricotant la laine des moutons heideggeriens pour faire des chaussettes à son faible penseur préalpin de Marie, bon, c'est des... C'est d'une violence et d'une drôlerie.
Et tu as raison, après, on ne peut plus imaginer autre chose.
Non.
Par exemple, quand il, sur Schopenhauer aussi, où il dit Schopenhauer a tout dominé, mais il était dominé par son chien. C'est étonnant, quoi. C'est des raccourcis définitifs. Ou la pièce Emmanuel Kant, où Kant est avec sa femme sur un pont, et il part aux États-Unis donner des conférences. Et il écoute le perroquet qui a enregistré toutes les conférences. Et cette scène de Kant avec une épouse, en train de, tous les deux assis sur une chaise longue, en train d'écouter le perroquet qui débite du Kant, c'est magnifique, quoi. C'est des choses... Après, on ne peut plus lire sérieusement ces auteurs. Il y a quelque chose qui dérape.
Dernier rapprochement. C'est ta personnalité et ton œuvre qui m'y contraint en quelque sorte. Je pense que si c'était Arnaud Bertina qui dans la prochaine séance viendra parler de Claude Simon, si c'était Arnaud Bertina qui avait choisi Thomas Bernhard, je lui poserais d'autres questions. Mais là, en ce qui te concerne, il y a un moment où tu établis une relation entre la logorée, qui est quand même une des caractéristiques de Thomas Bernhard, et ce personnage du bavard fou de Jacques le Fataliste de Diderot. Là, il y a encore un lien très fort.
Ah oui, il y a cette jubilation de par exemple, Thomas Bernhard a très bien dépeint les rapports d'amitié. Et le plaisir intempestif qu'on a avec les amis à parler de n'importe quoi et avoir des fous rires absolument invraisemblables et de parler pour le plaisir de parler. Sur le fond, il faut dire que les relations des personnages de Thomas Bernhard les uns aux autres, c'est énormément des relations d'homme à homme. Et les femmes sont très absentes.
Ou très maltraitées.
Oui, enfin... Elles sont pas... Mais pour reprendre la question aussi, pourquoi Thomas Bernhard m'a fait cet effet, je me disais en t'écoutant que la vérité, c'est que les auteurs que j'avais choisis, aussi bien Casanova que Sade, contournaient, évitaient la question de souffrir. Sade en faisant une manière de volupté et Casanova en mettant ça entre parenthèses. Et en lisant Thomas Bernhard, j'ai vraiment eu peur que cette manière de savoir évacuer la souffrance soit dangereuse et qu'un jour, ça me retombe dessus. Et donc, je l'ai pris au sérieux comme celui qui pouvait me sauver d'une manière élégante de ne pas souffrir et de glisser. Parce que ça peut être un art de glisser comme ça. vice est mortel. Mais ça peut être, c'est très dangereux à long terme. Donc, moi, j'ai une gratitude pour lui.
Un maître en souffrance.
Oui, au sens où c'est aussi un maître du face-à-face. C'est celui qui vous oblige à regarder en face ce qui est.
Bien. Eh bien, je pense que maintenant, on va regarder ce film. Je rappelle, parce qu'ensuite on ne reparlera pas, que la prochaine séance sera donc relire Claude Simon avec Arnaud Bertina le 30 mars. Merci Chantal.
Merci.